Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025.
Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéo à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. C'est son nom qui est sorti en premier. Le 25 janvier, elle devenait la première athlète française sélectionnée en voile pour les JO de Paris. Et comme si les planètes avaient décidé de joliment s'aligner, un mois plus tard, elle accrochait la médaille de bronze autour de son cou au championnat d'Europe d'Iclassis à Athènes. Et pour elle, tout ça, c'est une première à 26 ans. La concurrence était rude pour Paris 2024. Pernelle Michon, Marie Barruet faisaient parler d'elle ces derniers mois. Mais son envie à elle était décuplée après avoir loupé la qualification pour Pékin. Ça vient sans doute au bon moment. Même si c'est vrai, elle y pense depuis 10 ans, depuis ces Jeux olympiques de la jeunesse en 2014, auxquels elle avait participé et qui furent un déclic. Elle nous racontera. En parallèle, elle, qui est licenciée au Yacht Club de Mandelieu, a aussi fini major de sa promo pendant son DUT en génie mécanique et productique et étudie à l'INSA de Lyon. L'organisation, l'ultra-exigence, elle sait. Et puis elle le dit, elle n'aime pas quand c'est facile. Chez elle, la volonté d'y arriver est farouche, que ce soit dans le chemin qu'elle s'est tracé comme ingénieure ou dans sa quête de la médaille qu'elle veut aller chercher à Marseille cet été. Et elle a déjà posé les jalons. Louise Servera est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Louise, tout va bien ?
Bonjour, tout va bien, merci.
Est-ce que tu es encore dans l'euphorie de ces championnats d'Europe qui se sont terminés il n'y a pas si longtemps que ça ?
Je suis encore dans l'euphorie, mais aussi dans la perspective de dire qu'est-ce qu'on met en place dans les prochains mois pour avoir les meilleures cartes en main pour jouer une médaille à Marseille cet été. Donc à la fois, je suis contente, on profite avec les amis, avec la famille, les sponsors, mais il y a un petit peu dans la tête qu'est-ce qu'on fait pour, parce que maintenant, on l'a touché du doigt et on va aller plus loin.
Parce qu'en fait, quand on a une médaille comme ça au championnat d'Europe à 5 mois des Jeux, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, c'est un peu ça l'idée ?
C'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on a envoyé un message à nos concurrentes pour leur dire « écoutez, il faut compter sur moi ». On a réussi à le faire sur… c'était mon premier podium sur un championnat d'Europe. Donc, ça donne des ailes et ça donne plus de motivation encore pour y croire. Et voilà, faut pas se reposer pour les 5 prochains mois. Il faut y aller à fond, là.
Tu dis que, évidemment, on y reviendra, mais tu dis que c'est, et on l'a souligné, que c'était ton premier podium sur un championnat d'Europe. Est-ce que le fait d'avoir su que tu étais sélectionnée pour les Jeux un mois plus tôt, ça a libéré quelque chose chez toi qui a fait que tu t'es peut-être exprimée pleinement sur ce championnat d'Europe ? Il n'y avait plus d'inhibition ?
C'est vrai que je pense que ça a joué. J'avais un peu peur quand même avant le championnat d'Europe que… un petit peu trop de relâchement justement après cette sélection me fasse un petit peu douter de plus être focus vraiment sur cette compétition parce qu'il y avait les Jeux derrière et on est focus sur les Jeux Olympiques. Mais au final, c'est vrai que je suis arrivée au championnat d'Europe l'esprit plutôt reposé dans le sens où j'avais plus à prouver sur les compètes que c'était moi qui méritais d'aller aux Jeux. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et avec de la passion et sans, en fait sans filtre, j'avais pas de peur de quelque chose. Donc ça s'est déroulé de bout en bout, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et j'ai fait une super medal race et ça voilà, c'est de bon augure pour les Jeux, donc c'est top.
Qu'est-ce qu'on vient chercher sur un championnat d'Europe à 5 mois des Jeux ?
Alors, je venais chercher de la confrontation et aussi savoir un petit peu où j'en étais par rapport aux autres au niveau tactique, stratégie. C'est un petit peu le point qu'on veut bosser avec mon entraîneur. Et ça nous a permis d'avoir une compète après le mondial pour encore voir les points, plutôt les détails qui nous manquaient pour les Jeux. Surtout qu'on a Palma derrière, on a la Coupe du Monde, donc à Palma, la Coupe du Monde ailleurs. Donc là, c'était vraiment une petite étape pour dire... Bon, ok, on y va, on sait qu'on va pas être préparé à 100% parce que bah, il y avait le mondial il y a un mois avant, il y a eu la sélection, c'était pas les conditions idéales, mais bon, on a eu des conditions météorologiques plutôt avec du vent faible et ça a permis de vraiment bosser ce qu'on voulait faire et on ressort avec beaucoup de points positifs et quelques points encore à améliorer et à se focaliser sur Palma hier pour les prochaines étapes.
T'as senti que tes concurrentes, elles te regardaient avec un œil un peu différent ?
Alors ça, moi je suis un peu pote avec tout le monde, donc moi j'aime bien être dire bonjour et rigoler avec tout le monde. Après sur l'eau, par contre c'est la guerre. Et j'ai pas senti qu'elle me regardait différemment. Par contre c'est vrai que j'ai eu beaucoup de félicitations et de gens qui m'ont dit en anglais you deserve it, tu l'as mérité. Voilà, c'est sûr que ça fait plaisir et je pense que dans leur tête aussi ça va dire ça va leur faire dire. Ah ok, elle était tout le temps en medal race, elle n'était pas souvent sur les podiums, elle était top 4, top 5, mais pas tout le temps sur les podiums. Et là, elle a montré qu'elle pouvait le faire, donc ça va peut-être leur faire un petit quelque chose pour la première manche des Jeux qu'il faudra compter sur moi.
Louise, j'ai une question rituelle qui est la suivante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi à brûle pour point ?
On n'est pas beaucoup. Moi, ce que je dirais, c'est j'ai eu la chance de faire du laser 4.7 avec les garçons. Et je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment un plus par rapport à maintenant où ça a changé. Parce que j'ai pu me confronter à eux. Et ça, c'était vraiment top dans le sens où on était sur le même pied d'égalité. Si on voulait une médaille, il fallait faire avec les garçons. Et je trouvais que c'est vraiment top le partage qu'il y avait entre nous à cette époque-là. Mais c'est vrai que nous, en laser, on n'est pas beaucoup de filles. Mais... les jeunes arrivent et je suis vraiment super contente de les voir à Marseille s'entraîner. On va essayer d'ailleurs de passer un peu de temps avec elles pour essayer de partager parce que moi, je sais qu'en tant que petite fille, quand je voyais les grands, je voulais naviguer avec elles, je voulais faire comme elles. Donc voilà, moi, je pense que la place de la femme dans la voile, ça continue à avancer dans le bon sens.
Tu dis, quand j'étais petite fille, je voyais les grandes. C'était qui les grandes que tu regardais ou que tu as pu admirer ?
Alors moi j'avais Samantha Davis dans le Vendée Globe, j'étais un petit peu comme je voulais faire comme elle. Après j'ai eu Mathilde Kerangat avec Marie Boulot, voilà, qui ont un petit peu tracé la route quand j'ai commencé à faire du laser vraiment. C'est mes premiers pas en équipe de France, je les ai faits avec elle et c'est vrai qu'elles avaient quand même c'était plus âgées que moi et elles m'ont montré un peu le chemin à suivre pour en arriver là, quoi. Donc, c'était un petit peu mes mentors à cette époque-là.
Il y avait cet esprit de... Alors, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais il y avait cet esprit de sororité dans l'équipe, de « t'es une petite, je te prends sous mon aile ». Il n'y avait pas « t'es une petite, tu me fais peur ».
Non, à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Après, c'est vrai qu'on était un gros groupe, donc ça s'est pas mal éclaté au fur et à mesure des années, mais il n'y avait pas... C'était vraiment bonne entente... Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Marie, avec Marie Boulot quand elle s'est sélectionnée aux Jeux. J'étais sa partenaire d'entraînement. Ça a été une grosse étape de ma vie, je pense, en termes de connaissance de soi, partage avec Marie. C'était vraiment une super aventure. Et après ça, je suis ressortie plus grande de ces 6 mois de préparation pour Marie parce qu'en fait, j'ai vécu les Jeux comme si j'y étais avec au travers elle, en fait. Et on avait fait une super préparation pendant 6 mois. Pendant qu'il y a eu le Covid au final, mais c'était vraiment top, surtout que c'est une fille en or qui partage énormément et d'ailleurs on est toujours amis, elle a un petit garçon qui vient d'arriver et c'est juste génial de partager des moments comme ça.
T'as appris quoi sur toi pendant ces 6 mois ? qui sont effectivement 6 mois de partage, 6 mois un peu dans l'ombre quand même, parce que c'est pas toi qui préparais les jeux.
Dans l'ombre, mais j'aimais vraiment le rôle de dire, il faut que j'aide Marie, que je la mette un peu dans la merde dans l'entraînement pour qu'elle, en fait, elle redouble d'efforts pour être plus forte. Donc j'ai vraiment adoré jouer ce rôle-là. Après Marie, c'est une personne qui va jamais se mettre en avant en fait. Donc on a toujours fait tout ensemble comme si au final, moi aussi j'allais au jeu avec elle. Et elle m'a jamais mis derrière elle ou voilà, j'avais accès à tout ce qu'elle avait accès. Des fois, si elle avait des rendez-vous avec des personnes, j'étais tout le temps avec elle. Elle m'a vraiment amenée et donc j'ai vraiment découvert ce que c'était la préparation un peu des jeux. Et je pense que j'en ai grandi par rapport à la rigueur, à l'investissement, comment il fallait programmer, vraiment un petit peu sur la globalité des petits détails. Mais ça a fait que j'ai vraiment continué à avancer dans le bon sens. Et après, en fait, ces 6 mois. Les filles aux Jeux Olympiques ont pris une petite pause. Moi, j'ai continué à m'entraîner, bien sûr, parce que j'étais pas qualifiée. Et le retard que j'ai eu sur cette préparation olympique, grâce à ces 6 mois avec Marie, elle s'est de suite rapetissée et j'ai pu enchaîner pour moi la préparation de Paris beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement.
Une excellente répétition, quoi, pour ce qui t'attend dans quelques mois.
Exactement.
Louise, ça commence comment ton histoire d'amour avec la voile, avec la mer. Alors, oui, évidemment, on l'a dit, hein, le Yacht Club demande de lieu, ça commence à 6 ans, évidemment en Méditerranée. Ça vient d'où ?
Alors, mes parents passaient beaucoup de temps l'été au club pour... Donc, au début, j'étais à Cannes et ils passaient beaucoup de temps au club avec leurs amis. Et ils m'ont inscrit à un stage parce que j'ai demandé à faire de la voile et c'était au moins, ils se débarrassaient de moi, c'était plus facile quand j'avais 6 ans. Donc, j'ai fait une première semaine de stage et après, j'ai vraiment accroché à ça. Moi, je me souviens de mes premiers jours sur l'eau. Et j'ai fait la deuxième semaine, donc j'ai demandé la troisième semaine. Et après, on m'a dit, y a l'école pré-compétition en septembre. Donc ça, c'était en juillet. J'ai dit, mais oui, je veux faire ça en pré-compétition. Et c'est parti en septembre. Ils m'ont inscrit à la voile en pré-compétition. Et très rapidement, c'est moi qui ai demandé à faire ma première compète parce que les jeunes du club préparaient leurs optimistes sur une remorque. Et moi, je suis allée les voir en disant, mais vous faites quoi? Et ils ont dit, on part à Bandol en régate. Et moi, j'ai dit, mais je veux venir avec vous. Et là, l'entraîneur a dit, c'est parti, il faut que tu demandes à tes parents. D'un air un peu, mais pourquoi elle nous demande? Et moi, donc, j'ai demandé à mes parents, mais il faut que tu achètes ci, il faut que tu achètes ça. Ok, c'est bon, demain, on sera prêt. Et c'est parti comme ça, ma première compète à Bandol. Et ça s'est jamais arrêté.
Mais tu étais toute petite.
Ah, j'avais 6 ans et demi. C'était vraiment, c'est moi qui ai demandé. Je me souviens vraiment des moments où j'avais vraiment envie de le faire. Ils m'ont jamais forcé en fait à faire ça. Je pense que la voile, clairement, c'est une passion. C'est vraiment en moi, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et en plus de ça, je pense qu'à ce moment-là, j'ai découvert la compétition, qui est aussi quelque chose qui me passionne. Le fait de cette adrénaline, ces émotions, ce stress, de dépassement de soi, des adversaires, ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment fort pour moi. Et j'ai trouvé ce jour-là deux choses de ma vie qui se sont rencontrées et qui pouvaient faire corps, en fait, une compétition de voile. Et je suis partie à 6 ans et demi. Et puis après, on a enchaîné. J'ai fait ma première compétition, la CIP, ça s'appelait en optimiste, en avril à hier. Non, c'était à la Londres, même précisément, avec mon premier téléphone ou avec les touches. J'avais 7 ans et voilà, ça ne s'est jamais arrêté de naviguer, de faire des compètes. C'est vraiment ma vie.
Mais ça vient d'où ? Tu es d'une famille très nombreuse où il fallait se battre pour avoir les brioches le matin au petit-déj, donc la compète, c'était inné.
Non, même pas, vraiment. Il n'y avait pas du tout de ça chez moi. J'ai juste une sœur en plus. Il n'y avait pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Mais je pense que je voyais mon père qui se bataillait avec une grande entreprise qu'il avait de poissons. Et peut-être que le fait qu'il se lève tôt, qu'il travaille beaucoup, qu'il doive se batailler parce que c'était lui le gérant, peut-être que ça vient de là. Ça, je ne sais vraiment pas exactement pourquoi. Mais je sais que je n'aime pas perdre. Ça, c'est clair. Dans tous les jeux de tous les jours, je n'aime pas perdre. J'ai fait du judo, du tennis, j'ai fait pas mal de sport. Mais après, la voile reste, voilà, on est dans la nature, c'est l'aventure à chaque fois. Quand il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est vraiment l'aventure quotidienne sur le bateau. Et c'est ce qui a fait que j'ai continué dans ce sport-là et pas dans le tennis, par exemple.
Une semaine sans voile, c'est terrible, alors ?
Franchement, oui. Déjà, une semaine sans voir la mer, c'est compliqué. Ça, c'est presque impossible. Mais une semaine sans voile, c'est quand même pas simple. Ouais.
À partir de quand tu comprends que ça va être plus que des... je mets des guillemets à petite, hein, compète comme ça de temps en temps, que ça va devenir un réel objectif?
Alors, je pense que ça vient de mon premier entraîneur en laser, Pierre Guillen, qui était à Cannes. J'ai commencé à faire des compétitions donc en 4.7 et vite il m'a dit mais il faut qu'on s'entraîne plus, il faut que tu viennes plus souvent. On a commencé à s'entraîner plus et donc par rapport à la concurrence française, on était quand même en avance par rapport à ça. Donc j'ai commencé à gagner pas mal de compétitions en France et qui m'a ouvert les portes à l'international très rapidement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je à la fois du professionnalisme de mon entraîneur de l'époque et ce que j'étais en train de construire, j'ai senti que là, j'avais envie d'aller plus loin. J'ai commencé à avoir des accès sur les stages avec justement Mathilde, Marie, etc. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je me suis présentée au Pôle Espoir pour le lycée à Antibes. On a continué. Et une fois que j'ai participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2014, je me suis dit, OK, c'était cool pour les jeunes, mais maintenant, je veux faire ceux des grands avec une dimension encore plus... plus grande. Donc c'est vrai que c'est arrivé assez tôt peut-être, mais par contre les échelons ils ont été gravis vraiment sans forcer. Voilà, c'est on s'est entraîné, on a gagné des compètes, on en a perdu, j'en ai perdu beaucoup, mais on s'est enfin, en tout cas je me suis construit au fur et à mesure sans pression et sans attente de qui que ce soit. C'était vraiment moi qui mettais mes envies et mes objectifs sur ça quoi, mais toujours avec les cours à côté, ça c'était important aussi.
Tu dis des compètes, j'en ai perdu beaucoup. Tu vis comment, toi, la déception de... Alors, pas forcément d'un échec, mais en tout cas de quelque chose pas forcément accompli comme ce que tu aurais souhaité.
Bah, je le vis clairement comme un échec, je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je travaille avec une préparatrice mentale qui, du coup, m'a aidée à accepter, en fait, les erreurs. C'est vrai que toutes les compétitions que j'ai faites, et j'en ai fait beaucoup, j'ai fait des erreurs et j'ai perdu des podiums, mais des erreurs, en fait, pour moi, si j'ai donné un peu le meilleur de moi-même, que j'ai fait des petites erreurs, c'est pas quelque chose qui va me prendre la tête et je vais y penser tous les soirs. Par contre, des compétitions où j'ai pu, par exemple, griller des départs alors que c'était vraiment, mais il n'y avait pas besoin de le faire, où j'ai pris des risques pour rien, où j'ai fait des erreurs, en fait, qui sont énormes, que j'aurais pu faire quand j'étais au début de ma carrière, mais pas maintenant. Et je l'ai fait encore, hein, il y a clairement, voilà. Ça, c'est dur à accepter parce que je sais que j'ai perdu gros. J'ai pris beaucoup trop de risques à ce moment-là et c'est vraiment dur à accepter ces moments-là. Je pense que maintenant, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a des moments quand je fais rien et que des fois, je vais m'endormir, je pense des fois à des compètes, même que j'ai fait un optimiste en disant mais pourquoi t'as fait ça ? C'est voilà, un petit peu le côté rageant et c'est de l'émotion qui revient, mais après, c'est ce qui aide aussi à aller plus loin et se construire. Mais c'est vrai que j'en ai loupé beaucoup par sûrement le stress les émotions qui montaient en moi et que je n'ai pas réussi à contrôler, quoi.
Et ta préparatrice ou ton préparateur mental t'aide à quoi en particulier ? C'est quoi les... Alors, on ne va pas tous les dire, hein, les points faibles de Servera juste avant les Jeux, on ne va surtout pas en parler. Surtout pas. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu justement ce sur quoi c'est important pour toi de travailler ?
Donc moi, c'est une préparatrice mentale, c'est Ingrid Petitjean qui a fait beaucoup de voile olympique.
Bah, bien sûr, oui, bien sûr.
Donc elle m'a beaucoup aidée, donc depuis, ça fait 7 ans maintenant, je crois, qu'on travaille ensemble. Justement, on était en Coupe du Monde hier, et là, j'ai fait une journée catastrophique avec des actions et des réactions qui n'étaient pas du tout appropriées à la journée. Donc ça m'a vite énervée, et en rentrant, en fait, j'ai demandé de l'aide, il faut que j'appelle quelqu'un, j'en ai marre que ça continue tout le temps à être la même chose. Donc je l'ai appelée, et on a eu notre premier rendez-vous dans la foulée à Marseille. Et ce qu'elle m'apporte beaucoup, c'est surtout de la gestion des émotions. Que ce soit positif ou des émotions qui soient plutôt néfastes à ma situation actuelle, par exemple. Donc, elle m'aide beaucoup à ça. Ça va vraiment, il y a un panel de choses à voir, hein, mais ça peut passer par de la relaxation, des routines en fait, qu'on met en place maintenant depuis quelques années pour ça. Et par rapport aussi aux attentes et aux objectifs, je pense que tant que j'avais pas posé sur un papier, c'était quoi mes... J'avais des rêves, mais c'était quoi mes objectifs vraiment réels et que je pouvais écrire. C'était... Les émotions pouvaient être plus grandes, en fait. Oui, je rêvais d'aller faire une médaille au jeu, Mais rêver, c'est bien, mais il y avait vraiment l'objectif derrière. Et peut-être que donc, j'avais trop d'attentes par rapport à ça et j'espérais trop par rapport à ça. Donc, on a bien bossé.
Est-ce qu'on peut revenir sur ce déclic? Je crois que c'en est un, ces Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Tu nous racontes ce moment-là, tu es sélectionnée pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça va nourrir d'autres choses chez toi, j'imagine.
Ouais, franchement, c'était. Y avait une sélection aussi sur un championnat du monde qui avait lieu au lac de Garde, le lieu en plus où j'ai rencontré mon entraîneur actuel, Fabrizio Lazzarini. Donc, c'est vraiment la boucle est bouclée. C'était vraiment une super compète au lac de Garde en plus. J'ai gagné la sélection et c'est vrai que quand j'ai réalisé qu'on allait aux Jeux Olympiques de la jeunesse, je me suis dit ça va être une super aventure. Et j'ai vraiment découvert la dimension équipe de France, team, le partage de tous les sports. Et là, je me suis dit, c'est aussi un événement où j'ai été pris par les émotions en disant, mais c'est grandiose, on n'avait pas l'habitude, les médias, on était avec une centaine en équipe de France, du coup, de la jeunesse. Et c'est vrai que c'était compliqué d'être vraiment focus sur la régate, tellement c'était grand.
T'avais 16 ans à l'époque.
J'avais 16 ans à l'époque.
Ouais, c'est jeune,
encore. Et c'était ma première, ma plus grande compétition internationale où j'avais pu participer. Et c'est vrai que, ce qui est top, c'est que les personnes, mes concurrentes étrangères qui étaient là-bas, c'est les concurrentes étrangères actuelles avec qui je me bats. La Championne d'Europe, la semaine dernière, était justement à Nanjing aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça, c'était vraiment top. Et c'est vrai que de voir l'engouement autour de ça, les anneaux des Jeux, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose quand même c'est tous les 4 ans, c'est quelque chose quand même de grandiose. Et je veux vraiment essayer d'aller faire les vrais pour les grands.
Donc, quand on dit que ça fait 10 ans que tu y penses au jeu, c'est pas faux, quoi.
C'est quelque chose qui m'a animée pendant. Je savais que Tokyo, ça allait être assez court en termes d'expérience et de volume et de. Oui, j'étais encore assez jeune, j'avais pas eu le temps de vraiment construire, on va dire, ma carrière et mon expertise sur le laser. Maintenant, quand j'y pense, je me dis que c'était juste une étape, que Tokyo, voilà, c'était une étape pour se construire et qu'en ligne de mire, j'avais Paris dans tous les cas dans ma tête.
Alors, tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu l'as dit subrepticement, mais on a entendu, il y avait la voile à fond, évidemment, mais il y avait aussi les études. C'était très important de continuer. Donc, j'imagine ton cerveau, il y avait un bout complètement en voile et un bout études. C'était quoi les envies, les objectifs dans ce domaine-là?
Depuis tout petit, je voulais faire une école d'ingénieur. Alors, pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais je voulais être ingénieur. C'était là, voilà, je veux. Et j'avais entendu parler de l'INSA de Lyon qui aidait du coup les sportifs de haut niveau pour arriver à faire un double projet de très haut niveau pour moi. J'ai vu François Gavard qui arrive aussi à faire une école d'ingénieur et après designer son bateau, le construire et puis aller le naviguer dessus pour faire le Vendée Globe. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien faire pareil, ça a l'air cool. Donc, j'ai décidé de partir sur cette voie-là, mais en ayant fait un DUT et pas une prépa intégrée, parce que je voulais vraiment pouvoir rester dans le sud et continuer à m'entraîner pendant 2 ans. Donc, j'ai pris la décision de faire un DUT un petit peu plus restreint sur 2 ans et pas sur 3 ans, la prépa intégrée, pour après intégrer l'INSA de Lyon. Et c'est vrai que moi, j'aime bien fonctionner pas une case de mon cerveau pour la voile et une case de cerveau pour l'école. C'était vraiment des blocs. Donc, par exemple, je pouvais retourner une semaine en cours et c'était vraiment les cours à fond pendant 24 heures sur 24 et jusqu'à ce que je redescende pour m'entraîner. Et ça a vraiment bien marché comme ça en essayant d'aménager au fur et à mesure des périodes en fonction de la voile, bien sûr. Je calais mes cours. Et j'ai essayé de, par exemple, faire un peu plus de cours 3 ans avant les Jeux et un peu moins 2 ans avant les Jeux et presque plus 1 an avant les Jeux. Et maintenant, je suis qualifiée. On a repoussé ma dernière année en septembre 2024 au lieu de la commencer maintenant. J'ai une bonne excuse. Ils m'ont dit que c'était pas un souci.
Ça demande quoi en termes d'organisation, tout ça, de rigueur? Parce que j'imagine que c'est ce qu'il faut principalement, la rigueur, au-delà de la passion, évidemment.
La rigueur et l'organisation, c'est vrai que c'est quelque chose. Si on est organisé, vraiment, bien sûr, il y a des fois on a un peu moins la motivation d'aller s'entraîner ou d'aller plutôt travailler et de pas aller s'entraîner justement avec les copains. L'organisation, ça passe aussi par l'aide de l'école. Ils m'ont donné l'accès, par exemple, à des tuteurs, donc je pouvais avoir des cours en visio quand j'étais à l'étranger pendant mes stages. un peu à toute heure, j'avais une prof dédiée pour moi et on pouvait organiser dans la semaine en disant bah, « là, j'ai pas voile, entre midi et 14h, est-ce qu'on peut faire un cours ? Là, il n'y a pas de vent, est-ce que tu es disponible ?» Et grâce à ça, j'ai pu passer des heures et des heures à l'étranger, justement, par exemple, à Vilamoura au Portugal, tout en ayant un contact permanent avec l'école.
Formidable.
Et pour les partiels. Et en fait, sans ça, c'est impossible de le faire, clairement. Moi, j'aurais pas pu partir autant tout en gardant un pied dans l'école. Donc, c'est vrai que le lien avec ces tuteurs qu'il y a entre les profs et moi, c'était vraiment un plus et qui m'a permis d'avoir en plus des super notes grâce à ça, parce qu'on était à l'essentiel, j'étais toute seule avec elle, on bossait vraiment à fond pendant 2 heures, moi je rebossais le soir et puis après j'avais l'entraînement. C'était vraiment l'organisation parfaite que je pouvais avoir. Bien sûr, l'école voilà, a aidé beaucoup avec ça et moi après j'ai gardé quand même un planning qui me permettait de, des fois je loupais un entraînement pour essayer de ne voilà, de pas perdre au niveau scolaire et de ne pas prendre de retard. Et quand j'approchais des partiels, bah, j'essayais de faire un peu moins de voile pour me focaliser sur ça et les passer rapidement.
Ça dit quoi de ton caractère, Louise, d'arriver à mener tout ça de front ?
Bah, déjà, j'en suis fière parce que c'est vraiment une super école et la voile, c'est vraiment une passion. Donc, je suis fière de ce double projet de haut niveau. Après, de mon caractère, c'est que je pense que je suis déterminée et quand je veux quelque chose, bah, j'y arrive par tous les chemins. Je trouverai mon chemin à moi, mais en tout cas, j'arriverai. Et je pense que voilà, sur les 3 ans, l'école m'a beaucoup écoutée sur mes besoins et les envies que j'avais pour préparer les paris. Et ils ont été vraiment attentifs par rapport à ça. Et quand j'ai pu, par exemple, faire un semestre complet comme un élève normal avec valider tous mes cours, ils ont dit t'es sûr de toi, tu le sens bien. J'ai dit oui, je le sens, ça va le faire. Et ils m'ont posé pas mal de questions, mais moi j'ai dit non, ça va le faire pour valider tout d'un coup. Donc j'ai fait vraiment un semestre à fond, mais ils auraient très bien pu, par exemple, pas m'écouter et me dire non, faut pas faire comme ça. Mais ils ont vraiment été à l'écoute de moi sur toute ma période de l'INSA avec la voile, quoi. Donc,
et alors tu veux faire quoi après l'INSA, après les Jeux ? C'est quoi l'objectif là ? Alors, aller construire ton bateau comme François Gabart pour aller partir autour du monde.
Bah ça c'est un petit truc que j'ai dans la tête quand même, mais j'aimerais bien continuer la voile olympique jusqu'à ce que je puisse. Clairement, pour 2028, c'est sûr que 99,9999, j'aimerais continuer. Peut-être aussi même 2032, sait-on jamais si j'ai encore la forme et l'envie et la passion qui m'anime. C'est vrai que pour l'instant, le haut niveau me fait vibrer. Clairement, je me lève tous les matins avec le sourire et j'ai envie d'y aller à l'entraînement. Et le projet et le rythme de sportif de niveau me plaît vraiment. Après les Jeux, c'est vrai que j'ai aussi envie de rester dans la compétition régate plutôt sur qui ressemble à l'olympisme. Donc, c'est vrai que si je peux être plus sur l'America's Cup, pour l'instant, ça me ferait rêver. Mais après ça, j'aimerais bien travailler... par exemple, avec François Gabart à Mer Concept.
Sens que c'est un appel qui est lancé. François, oui. Si tu écoutes.
Mais j'ai déjà commencé. J'ai pu le contacter sur Instagram échanger un petit peu avec lui par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont quand même énormes et colossaux. Et c'est aussi quelque chose qui me fait envie de pouvoir être dans une écurie, pour moi, qui ressemble à des écuries de F-Formule 1, en fait. C'est vraiment, il y a tout. Il faut de A à Z concevoir le bateau, le designer, faire des études, il faut le tester, il faut aller naviguer dessus pour comprendre. C'est vraiment une passion. Et de pouvoir toucher du projet, en fait, de A à Z, et pas juste on te donne un bateau et tu dis juste tes ressentis, non, là, t'es vraiment dedans, en dire, là, j'ai senti ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et tu comprends, en fait, tout le processus. Ça, c'est vraiment top aussi. Donc ça serait aussi un plan... J'aimerais bien avoir plusieurs vies, en fait.
Non, mais t'en as une qui va être longue, donc il peut se passer plein de choses encore.
Ouais, exactement.
Louise, puisqu'on parlait là des études et ce double projet à très haut niveau, que ce soit à l'INSA Lyon ou, bien sûr, la prépa pour les Jeux, je lisais que... Il y a eu le soutien de ta famille qui était très important dans ce double projet-là. Elle a joué quel rôle ?
Sans eux, c'est impossible d'y arriver parce que vu qu'on fait 2 projets de très haut niveau, clairement, faut pas se mentir, on a besoin d'aide permanente sur de la logistique, sur des détails en fait du style. Il faut amener un bateau là, mais moi si j'y vais, je vais peut-être perdre 4 heures, alors que si je reste à l'école, je peux bosser. Donc sans eux, c'est pas possible de pas avoir en fait leur soutien au quotidien. Mais c'est aussi un soutien moral, c'est-à-dire que à l'INSA, c'est quand même dur. La voile, c'est encore plus dur. Et il y a des moments de doute, il y a des moments où j'arrive plus, des moments où j'ai plus la motivation parce que je trouve que je suis submergée par de travail et je trouve plus le chemin en tout cas pour arriver au bout de mon objectif. Et ces moments-là, si mes parents et ma famille ne sont pas là ou même mes amis, c'est très compliqué. Donc, je me souviens par exemple qu'on a eu des partiels en janvier en 2021 et je me suis dit, mais stop, je vais pas y arriver, j'arrête. Je suis sortie du dernier partiel avec mes copains de l'INSA et j'ai dit, ravie de vous avoir connu, moi c'est fini, de toute façon, je vais avoir zéro à tous les partiels, je rentre chez moi, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et en fait, j'étais un petit peu submergée par les émotions, j'avais bossé pendant des mois et l'impression de pas avoir réussi en fait au partiel. Ce qui était faux, en fait, j'avais plutôt bien réussi, mais c'était le sentiment qui m'était... Et ma famille est arrivée à ce moment-là et j'ai vraiment pleuré parce que j'étais un petit peu à bout, fatiguée, et sûrement, j'avais pas navigué pendant 2 mois en plus, donc c'était un petit peu un manque. Et je me suis dit que j'arriverais pas à faire les deux, quoi. Donc voilà, sans eux, c'était... Les 3 dernières années auraient été très, très compliquées.
Ils voient comment ce qui est en train de t'arriver ? Quand je dis ils, c'est tes parents, ta sœur, en l'occurrence, aussi.
Je pense qu'ils sont super fiers et super contents. Ils vivent ce projet en fait avec moi. Donc, j'ai toujours à la fin de chaque journée de compétition, j'essaie toujours de les appeler pour leur dire comment ça s'est passé. Sans pression, c'est juste j'ai fait de la merde, voilà. Ah bon, ok, super. Et après, on parle de la pluie, du beau temps. Ou ah, aujourd'hui, j'ai fait une super manche comme à l'européen. J'avais gagné une manche avec beaucoup d'avance. Oh, aujourd'hui, je les ai défoncés. J'ai leur ai mis beaucoup d'avance et tout. Donc ils rigolent, ils sont contents. Et puis après, voilà, vraiment sans pression. Mais j'essaie de les impliquer au maximum en fait avec moi dans le projet parce que voilà, c'est ma sœur. Je sais que c'était pas simple aussi pour elle parce que je suis souvent peut-être mise en avant par rapport à je vais faire les Jeux Olympiques, etc. Mais elle le vit très bien. On a beaucoup de partage à la maison et voilà, c'est super pour ça.
J'aimerais que tu nous décrives ce fameux jour où, quand on est athlète, et qui plus est en voile, où on va le rappeler à nos auditeurs quand même que en voile il y a 10 séries olympiques et qu'il n'y a qu'un athlète par série qui est sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ce fameux jour-là où on apprend que c'est bon, on va y aller aux Jeux Olympiques et en plus, c'est les Jeux Olympiques à la maison. Pour la voile, on rappelle que ça se disputera à Marseille, qui est quand même une mer et un plan d'eau que j'imagine tu connais relativement bien. C'est comment ce jour-là ? Est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là ?
Je pense que c'est beaucoup d'émotions. Déjà, j'étais avec mon papa quand ils me l'ont annoncé, donc... il était en arrière-plan et donc après je lui ai fait un petit plus avec le doigt en lui disant c'est bon et là et donc il sautait de partout mais sans faire de bruit parce qu'il y avait toujours le directeur des équipes au téléphone donc il a vraiment sauté de joie et là j'ai compris. Moi je pense que sur le moment j'ai pas vraiment réalisé parce que j'ai estimé d'avoir fait des résultats toute la saison qui me positionnaient dans une position favorable pour la sélection. Je suis pas passée loin d'un super mondial, j'ai quand même fait 4 à Palma, 8 à Hier, voilà. Donc je me suis dit en fait j'aurai la chance sûrement d'être sélectionnée, on va voir comment ça se passe, mais j'ai fait mon travail et j'ai fait le maximum pour. Et c'est surtout en fait la réaction des gens, donc la réaction de mon père, après la réaction de ma mère et de ma sœur. Et après, en fait, je voulais vraiment appeler mon entraîneur, Fabri, pour lui dire « Fabri, on a réussi, on va aux Jeux Olympiques et tout ». Et c'est à ces moments-là où j'ai des frissons et j'ai envie de partager avec tout le monde, de sauter de partout. Et après, ça redescend vite parce que c'est qu'une étape, en fait. Paris, la sélection est qu'une étape. Comme on l'a dit, et tu l'as très bien dit, c'est à Marseille, c'est la maison. Je connais très bien ce plan d'eau. J'ai passé beaucoup de régates en optimisme donc depuis que je suis toute petite. Et encore plus, là, on va passer encore plus de temps pour, bien sûr, le connaître sur la perfection. Mais ça donne... la sélection, c'est top. Mais maintenant, on va aller chercher la médaille d'or à Paris, quoi. Il n'y a pas d'autre choix de se préparer pour, quoi.
Ça ressemble à quoi, une préparation en I-class 6 ? Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est vrai que pendant longtemps, c'était le laser et le laser radial pour les femmes. Maintenant, c'est I-class 7 pour les hommes et I-class 6 pour les femmes. Il est exigeant à quel point ce bateau-là ? On sait hein, souvent que ce sont des flottes qui sont souvent les plus nombreuses. On pense à Jean-Baptiste Bernas, qui est aussi un vrai fer de lance hein, chez les hommes en laser. Ça ressemble à quoi l'exigence de ce bateau-là? Comment on se prépare pour ce bateau-là, pour les Jeux Olympiques?
Alors, c'est vrai que moi, j'ai tout le temps le laser parce que ILCA, c'est un peu dur à prononcer et c'est pas très beau, je trouve. Donc
oui, en plus, moi, je dis ICLA. C'est vrai que j'ai tendance à inverser les lettres. Pardon, je suis désolée.
Non, mais ILCA, voilà. ICA. Bon, JB, c'est une légende du ILCA 7, hein, ça, on va pas se mentir. L'exigence, c'est vrai que ce bateau, il est à la fois passionnant et à la fois vraiment dur dans le sens où il y a, comme tu l'as dit, il y a énormément de concurrence. C'est-à-dire que nous, sur un championnat du monde en filles, on va être 120, on pourrait être encore plus, mais ils bloquent à 120 parce que sinon il y a trop de monde. Les garçons vont être 180, on va être 60 sur une ligne de départ. Une manche de 15, c'est très bien en fait, et on peut faire toutes nos manches dans les 15 et être championne du monde. C'est vraiment hyper exigeant du point de vue où on n'avance pas très vite. Donc, pour faire la différence, c'est vraiment des détails, et tout le monde a à peu près le même niveau en termes de, par exemple, technique. Mais il y en a une qui va peut-être avancer 0,03 nœuds plus vite, et c'est ce qui va faire la différence, où elle va aller 100 mètres plus loin à droite, et elle va faire la différence. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre bateau, je pense, c'est tout est possible. La championne du monde en Argentine, danoise, qui est super forte, elle fait que, entre guillemets, 9e au championnat d'Europe. C'est que, en fait, ça tourne, et il y a beaucoup de leaders, et ça, c'est au petit détail à la fin qui va faire la différence. Et du coup, pour la préparation de ça, il faut s'appuyer sur pas mal d'experts. Moi, j'ai quasiment 8 personnes qui m'entourent au final dans mon équipe. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais c'est grâce à ça qu'on arrive avec une base vraiment solide et sur laquelle je peux m'appuyer. Et ça part du médecin comme de l'entraîneur technique, du préparateur physique, de la préparatrice mentale. Et en fait, toutes ces bases-là doivent être solides pour pouvoir arriver sur une compétition comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde avec la meilleure version de soi, et donc la meilleure, moi, mais en tout cas, mon équipe essaye de me mettre dans la meilleure version de moi-même sur cette compétition. Et après, bien évidemment, au niveau des exigences entraînement, c'est du quotidien avec de l'entraînement physique, de l'entraînement sur l'eau et en stage, et bien sûr de l'entraînement mental, pareil sur des stages ou sur des récup, quoi. C'est au quotidien.
Louise, comment est-ce que tu chasses le doute?
Je pense que le première chose que je fais, c'est que je parle à mon entraîneur. Des fois, quand je doute, je sais qu'il aime pas ça, mais en même temps, il réagit bien. C'est-à-dire que il réagit dans le je m'en foutisme. C'est-à-dire, je vais le voir et je dis, Fabrice, je le sens pas, j'avance pas. Voilà, j'essaie d'être un peu genre dépité. C'est un petit peu ma façon de faire. Et là, il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Regarde. Et en fait, il me rattache à des points factuels que je peux voir en fait sur l'eau. Qui marche, ou par exemple, je peux être un peu plus meilleure qu'une concurrente, et le doute va s'échapper directement. Mais c'est vrai que le moment où j'ai vraiment partagé mes doutes à mon entraîneur, c'est des moments qui m'ont vraiment aidée, c'est-à-dire que j'avais plus ces doutes-là en moi, et je me sentais, peut-être pas au top niveau, mais en tout cas, je savais que j'avais les cartes en main pour faire quelque chose.
T'es une athlète qui a besoin d'être rassurée?
Je pense à des moments, oui, clairement. Après, quand j'ai un objectif en tête et que je suis sûre de moi et que je me suis préparée pour, jamais personne pourra me dire que t'es nulle ou que ça marchera pas. Dans tous les cas, j'irai jusqu'au bout de mes efforts. Moi, j'y crois vraiment. Quand c'est en tout cas en moi, j'y crois et je sais que ça pourra le faire. Après, il y a des petits moments, c'est vrai, où je me sens pas au top de ma forme. C'est ces petits moments-là de doute où je peux vite rentrer dans un cercle vicieux négatif où si je me sens pas à 99% de ma forme, je vais râler sur ma speed et sur mes sensations. Et là, c'est vrai que j'ai besoin d'être rassurée.
D'être qualifiée pour ces premiers Jeux Olympiques à bientôt 26 ans, c'est le bon moment?
Je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que j'ai acquis de la maturité, j'ai acquis de l'expérience sur l'eau. Et réaliser les premiers jeux mes premiers jeux à la maison avec en France pas loin de chez moi et à Marseille, je pense que c'est le bon moment pour à la fois pour aller chercher quelque chose qui pourra être très beau à Paris et à la fois pour me construire pour la suite pour 2028 et peut-être plus loin.
Tu penses à quoi quand tu te dis que il y a 20 ans à 6 ans t'allais voir les plus grands en disant mais moi je veux aller en compète avec vous là comme tu nous as raconté tout à l'heure? Et de se dire que peut-être ces gens-là, eux, ils vont te regarder là cet été cet été alignée sur les Jeux Olympiques. Comment tu regardes ce parcours de, mais déjà 20 ans en fait, c'est fou hein, quand on y pense.
C'est vrai que quand on y pense, 20 ans c'est fou. Après, quand je le regarde, en fait, je me retourne avec le sourire. C'est-à-dire que j'ai rencontré tellement de personnes vraiment extraordinaires. Par exemple, le premier jour où j'ai dit « je veux aller faire une compète avec vous », mon entraîneur s'appelait Thibaut Gatti. Et encore aujourd'hui, en fait, on s'appelle tout le temps et on se raconte, voilà, dès qu'il y a une compète, je lui envoie un message pour lui dire « c'est bon, on est qualifié au jeu, là, j'ai fait troisième ». C'est surtout, quand je pense à ces 20 ans, je pense au partage et aux gens que j'ai rencontrés et ce que j'ai pu accomplir grâce à plein de personnes, en fait, des entraîneurs comme Vincent Talleux qui est sur Marseille, qui m'a entraîné sur ma période de 4.7, sur juste des compétitions, mais j'ai fait mon premier titre de Championne de France avec lui, devant les garçons, et cette personne, elle m'a marquée parce que c'est grâce à lui que j'ai pu aussi gagner ce titre-là, et j'ai toujours en contact avec lui, et c'est vraiment, 20 ans, ça passe vite, mais au final, les personnes qui ont été dans ce projet pendant 20 ans, elles sont toujours là, et ça, c'est vraiment fou, franchement.
Est-ce que d'être une femme avec tous ces beaux projets a été, à un moment ou un autre, handicapant ?
Non, jamais. Non, clairement, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir courir avec les garçons et de leur montrer que nous, on était plus fortes qu'eux à des moments. Donc, j'ai justement gagné pas mal de compètes devant eux en 4.7 et pas mal de compètes aussi en radial avec les garçons. Et je pense que j'ai eu aucun moment de ma carrière en disant... merde, parce que je suis une fille, ça a pas marché ou j'ai eu des bâtons dans les roues à cause de ça. Vraiment jamais. Et toutes les personnes qui ont concouru, les garçons en tout cas qui concouraient contre moi ou je concourais contre eux, ça a été des personnes qui m'ont aidé plutôt à me construire que plutôt m'ont mis des bâtons dans les roues. Donc voilà, vraiment aucun sur ça, rien à dire par rapport à la femme. Dans mon sport.
C'est quoi le message le plus sympa que tu as reçu depuis que tu sais que tu es qualifiée pour les Jeux ?
Ouh là là ! Alors, je pense que j'ai
fait... plus inattendu.
Ouais, j'ai fait un plateau TV pour parler du coup de cette sélection et il m'avait fait une surprise avec deux vidéos, donc une vidéo de ma sœur et mes parents et une vidéo de mon parrain et de mes cousins à 7. Et là... j'avais les larmes aux yeux et je me maquille pas souvent mais j'avais du mascara, du coup il fallait vraiment pas que je pleure sinon ça allait tout couler. Et là je pense que c'était des messages vraiment forts de voir en fait dans leurs yeux et dans leurs paroles leur soutien, leur fierté et comment en fait ils étaient heureux de ma sélection. Je pense que là c'était vraiment touchant.
À quel point on entre dans une autre dimension quand on obtient ce ticket-là et qu'on sait qu'il reste 5 mois avant l'échéance ?
Alors, je ne dirais pas que je rentre dans une autre dimension parce qu'au final, notre projet, il était construit pour jusqu'au jeu. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va changer, si ce n'est peut-être un peu plus de... bien sûr de médias et de paroles autour de moi et de
ça change ça quand même.
Ça change et c'est super, c'est une super opportunité de faire partager les choses et de voilà de raconter comment on en est arrivé là, de donner envie à la jeune génération de faire des études, de faire du sport à côté, de faire de la voile, voilà, c'est moi j'aime vraiment partager en fait ce que j'ai vécu et mon projet en lui-même. Donc ça, c'est vrai que ça change un petit peu, mais sinon, par contre, le reste, je trouve vraiment pas que quelque chose ait changé en particulier. Et comme je l'ai dit, c'est une petite étape au final pour arriver à la finalité et à ma montagne en fait que je gravis depuis maintenant quelques années, quoi.
Tu t'imagines le premier matin ? Tu l'as imaginé le premier matin ?
J'ai pas imaginé le premier matin, j'ai plutôt imaginé la medal race en me disant
d'accord.
Là, il faut aller en medal race et j'aimerais arriver en medal race avec des points qui permettent de pouvoir jouer le podium. Et j'adore vraiment les medal race, c'est un format qui me plaît. On est que 10, quasiment tout est jouable si les points sont serrés. J'aime vraiment ce moment où en fait on joue sur une compète, sur une course de 20 minutes. Donc j'ai pas vraiment pensé au matin parce que peut-être parce que je m'en rends pas compte encore. et que je ne me rends pas compte de l'événement que ça va être. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore pensé à ça.
Le fait que ce soit à la maison et donc dans un lieu et sur un plan d'eau que tu connais, que vous allez tous, l'équipe de France en tout cas, bien connaître, ça a un côté rassurant ou est-ce que ça rajoute une petite pression supplémentaire?
Alors, s'il y a de la pression supplémentaire, je l'ai toujours pas. Peut-être que c'est pareil, c'est parce que je suis pas encore, j'ai pas encore réalisé à 100% qu'est-ce qu'on allait faire.
Ou que tu es dans ta routine finalement.
Oui,
tu es dans ton objectif.
Exactement. Vu qu'on a vraiment construit un projet sur le long terme, moi je suis toujours dans ma route en disant bah il y a mes stages, il y a mes entraînements, je sais ce qu'il faut que je travaille. Et la finalité, c'est d'aller faire. Moi, je l'appelle cette compétition avec mon entraîneur pour pas parler justement des Jeux Olympiques et qu'on en fasse un gros plat autour et qu'on soit vraiment avec du stress pour ça.
C'est comme Voldemort dans Harry Potter, celui dont on ne prononce pas le nom, quoi.
Exactement, c'est ça. Donc, on prononce bien sûr, on le dit, mais c'est vrai que on essaye de pas trop mettre l'accent sur ça, voilà, pour pas en faire un événement planétaire dans ma tête, quoi. Et comment. Je pense que ça va pas changer grand chose si on est à la maison. Je dirais pas que ça va pas changer grand chose parce que je pense que j'aurai plus de force, parce que je sais que j'aurai plus de soutien. Mais que je sois à l'autre bout de la terre ou pas, je sais que les gens me soutiennent. Là, peut-être la différence, c'est qu'il y en a qui vont se déplacer. Mais c'est pareil, je sais très bien qu'on sera dans un village olympique, que les personnes, on va pas pouvoir les voir comme on veut. Donc, cette compète, pour moi, elle est un petit peu, peut-être qu'elle est différente, mais en termes de sur l'eau, elle, pour moi, elle sera pareille. Qu'un championnat du monde ou qu'une autre compétition.
La Méditerranée, c'est quoi cette mer-là ?
Elle est juste extraordinaire. Quand elle n'est pas trop polluée, parce que c'est vrai que ça s'est un peu changé par rapport à avant, mais moi, mes plans d'eau préférés, c'est Palma hier, la baie de Cannes, de Mandelieu, Marseille, tout ça, c'est juste, par exemple, Athènes, c'est pareil. En fait, la Méditerranée, je ne sais pas, mais quand il y a ce clapot qui vient plutôt de la... Ailleurs, qui vient plutôt du sud, à Cannes, pareil. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est juste magique. La couleur et ce clapot quand on navigue, c'est juste waouh. Waouh. Je vous conseille de venir naviguer en Méditerranée.
Alors, pour nos auditeurs qui ne te voient pas, moi, j'ai la chance de pouvoir te voir. Il faut savoir que dès que j'ai prononcé ce mot de mer de Méditerranée, qu'elle a commencé à raconter, il y a les yeux qui se sont mis à pétiller de partout, le sourire éclatant, les mains qui se sont mises à bouger. On sent que c'est la maison quand même. Et c'est quand même pas mal d'aller disputer ses premiers jeux.
Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai que... Quoi qu'on fasse, ailleurs, à Marseille, à Palma ou chez moi, quand on va sur l'eau, c'est vrai que c'est vraiment similaire. Et même à Athènes, je me disais, bon, ça va peut-être être différent. Mais en fait, non, c'est vraiment... cette mer est la même partout, en fait, quand le vent va se développer. Et de se sentir à la maison et de sentir qu'on aime ça, ça donne un petit plus quand même de dire, bah, on la connaît, on sait comment un petit peu l'apprivoiser, comment faire avec... On a du bon feeling avec ça, c'est quand même un plus. Par exemple, moi, quand je vais en Hollande et que je sors sur soit le lac de Medemblik, soit quand je suis à Den Haag, je sens que c'est difficile pour moi parce que j'aime pas ça. J'ai pas un bon feeling.
Louise, toutes ces années, ces voyages, ce partage, ces projets, cette farouche envie d'aller là où tu as décidé d'aller, tu t'es construite comment en tant que femme, la femme que tu es aujourd'hui, là, elle est forte de quoi ?
Elle est forte de rencontres et de partage, ça c'est sûr. Je me répète, je l'ai beaucoup dit, mais je pense que je me suis construite et je me sens forte aujourd'hui grâce à toutes ces personnes sur qui ont partagé quelque chose sur mon chemin, que ça soit mes entraîneurs, que ça soit mes amis, mais aussi beaucoup d'étrangères en fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des groupes étrangers. Là, pour l'instant, on a une team qui est top et c'est un mélange de cultures, un mélange de plein de choses en fait. On est toutes différentes, mais à la fois, voilà, quand on apprend à connaître les gens et qui nous font partager ce qu'ils sont eux, ça construit en fait. Et moi, je me sens forte aujourd'hui parce que je sens que je suis aimée autour de moi, que j'aime les personnes qui m'entourent et que les personnes elles croient en moi, que moi je crois en elles. Et en fait, avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir une team, une base hyper solide. Et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, en fait, je me sens forte parce que dans quoi que soit le domaine de compétences ou de, je sais pas, de scolaire ou même de plein de choses, j'ai du soutien. Et c'est vraiment d'avoir des personnes comme ça qui ont fait que aujourd'hui j'ai confiance et je me sens mature et fière d'être là où je suis aujourd'hui et passionnée par ce que je fais au quotidien.
Merci Louise, on n'ira pas plus loin parce que c'était parfait comme phrase de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée de Navigante. Allez, un dernier petit mot quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les derniers mois là, avant cette belle échéance de cette compétition dont on ne prononce pas le nom. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ces derniers mois ?
De garder le sourire et juste d'avoir la forme pour pouvoir aller jouer la plus belle des médailles sur Paris. Si j'ai le sourire et que tout va bien, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ce sera une magnifique aventure.
Merci beaucoup, Louise Cervera, d'avoir été l'invitée de Navigante. C'était un très bon moment de discuter avec toi. On ne va plus regarder la mer Méditerranée pareil grâce à tes mots. Et bravo encore pour le championnat d'Europe. Et puis, bravo pour cette qualification. Et le meilleur est à venir.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.